Bienvenue pour cette exploration vraiment détaillée de la météo, mais à notre échelle.
Oui, celle qui nous touche de près, le long des côtes ou juste là au-dessus.
Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans ces phénomènes météo très locaux, ceux que le relief ou simplement la mer peuvent créer ou modifier.
Tout à fait.
Et on va s'appuyer sur les documents qu'on a pour décrypter tout ça. Notre objectif, c'est de comprendre ensemble pourquoi des fois le vent ne fait pas ce qu'on attendait des grandes cartes météo. Pourquoi il change si brusquement près d'un cap, par exemple, ou pourquoi il se lève comme ça l'après-midi par beau temps.
Ben oui.
On va essayer d'extraire l'essentiel de nos sources pour saisir ce qui influence vraiment le temps localement. Prêt pour un nouveau regard sur la météo?
Ah, c'est essentiel, parce que cette météo locale, elle a un impact énorme sur la sécurité en mer, bien sûr, mais pas seulement.
Ah oui, hein?
Mais oui, l'agriculture près des côtes, la rando, même la dispersion de pollen, de polluants. Les prévisions générales, elles donnent une tendance, ok.
Oui, le cadre général.
Voilà. Mais c'est dans le détail local que se cachent les surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs.
D'accord.
Donc, on va regarder ensemble les brises thermiques, ces vents qui naissent juste de la différence de température terre-mer. Puis, comment la géographie, une pointe rocheuse, un détroit, eh ben, comment ça sculpte le vent?
Les fameux effets de site.
C'est ça. Sans oublier les grains, ces phénomènes plus soudains, parfois dangereux.
Oui.
Et puis, à la fin, comment on utilise au mieux les outils qu'on a, les bulletins, les modèles, pour anticiper un peu tout ça.
Parfait. Commençons par le classique des beaux jours en bord de mer, la brise thermique.
Ah oui.
Ce vent qui vient de la mer vers la terre, souvent en début d'après-midi, d'où il sort celui-là?
Les sources parlent d'une histoire de chaleur différente entre la terre et l'eau.
C'est exactement ça. Le moteur, c'est le soleil, tout simplement. En journée, le sol, le sable et les rochers, les champs, ça chauffe beaucoup plus vite et plus fort que la mer.
D'accord.
L'air juste au-dessus de cette terre chaude se réchauffe aussi. Il devient moins dense, plus léger, et hop, il commence à monter.
Comme une montgolfière invisible en quelque sorte.
C'est l'idée, oui. Et cette montée d'air chaud, ça crée une sorte d'appel d'air au sol, une zone de pression un peu plus basse.
OK.
Pendant ce temps, l'air au-dessus de la mer, lui, il est plus frais, donc plus dense, plus lourd.
Logique. Et comme la nature n'aime pas le vide, cet air marin, plus frais, va se mettre en mouvement pour remplacer l'air chaud qui est monté sur Terre.
Ah, d'accord. Et c'est ce mouvement qu'on sent.
Voilà. C'est ce flux d'air de la mer vers la Terre qu'on appelle la brise de mer. C'est une vraie petite machine thermique locale, en fait.
Une machine, mais qui a besoin de conditions spécifiques pour démarrer, si je comprends bien les documents. Pas juste un rayon de soleil, quoi.
Non, en effet, il faut un contraste suffisant. Les sources parlent d'un écart d'au moins 4 degrés Celsius entre l'air sur Terre et l'eau.
4 degrés minimum?
Oui. Et surtout, cette petite machine locale, elle est un peu fragile. Si le vent général...
Le vent synoptique.
C'est ça, celui des dépressions et des anticyclones. Si ce vent-là est trop fort, disons au-dessus de 15-16 nœuds, force 4 Beffort environ,
Oui.
eh ben, il va tout écraser. Il va masquer complètement la brise thermique. Elle a besoin d'un temps plutôt calme pour pouvoir s'établir.
D'accord, effet soleil, différence de température nette et pas trop de vent général. Mais il y a un truc qui m'a toujours un peu intrigué, et les sources le confirment. Cette brise, elle ne souffle pas sagement tout droit vers la Terre toute la journée. Elle tourne vers la droite.
Ah, ça c'est fascinant. Là, on touche à une force invisible, mais omniprésente, la force de Coriolis.
Liée à la rotation de la Terre, c'est ça?
Exactement, due à la rotation de la planète. Sans entrer dans des équations compliquées, imaginez tracer une ligne droite sur un vieux disque vinyle qui tourne.
Oui, le trait devient courbe.
Voilà, bah, la Terre fait un peu pareil avec l'air qui bouge. Dans notre hémisphère nord, cette force dévie tout mouvement vers sa droite.
Toujours vers la droite.
Dans l'hémisphère nord, oui. Donc la brise de mer, qui commence souvent perpendiculaire à la côte, eh bien, elle est petit à petit déviée vers la droite par Coriolis au fur et à mesure qu'elle s'installe et que la Terre tourne sous elle.
Incroyable. Donc, le Soleil lance le mouvement et la rotation de la Terre ajuste la direction. C'est bien plus subtil qu'un simple courant d'air, hein?
Tout à fait.
Et ça, c'est une conséquence directe pour la navigation, par exemple.
Oui, l'après-midi près de la côte, faut pas s'attendre à ce que le vent vienne pile du large.
Non, il viendra de plus en plus de côté, plus à droite au fil du temps.
D'accord. Anticiper cette rotation, c'est clé pour régler ses voiles, choisir sa route. Mais bon, cette influence thermique terre-mer, c'est juste une partie de l'histoire.
Ah.
Oui. Parce que la forme de la côte, la géographie locale, ça vient rajouter une autre couche de complexité.
J'imagine, si on n'est pas sur une plage toute droite, mais qu'il y a des caps, des baies, des falaises, le vent ne doit pas réagir pareil. C'est là qu'on parle des effets de site.
Tout à fait. Le vent, il agit soit comme un obstacle, soit comme un canalisateur. Prenons l'exemple d'une pointe de terre, un cap. C'est l'effet de pointe.
Oui.
Le vent général arrive, rencontre cet obstacle, et il est forcé de le contourner. La conséquence, juste derrière la pointe, dans son ombre, on dit...
Sous le vent.
Exactement, sous le vent. Eh bien là, le vent est fortement réduit. C'est une zone déventée. Mmh. Mais attention.
Oui.
Sur les côtés de la pointe, là où l'air est obligé de se resserrer pour passer, le vent peut au contraire être bien accéléré.
Ah, d'accord. Donc, chercher l'abri juste derrière le cap, ça peut marcher, mais il faut se méfier des bords où ça peut souffler plus fort. Bon à savoir.
Précisément.
Et il y a un autre effet du même genre mentionné, l'effet Venturi, ou de canalisation. Ça, c'est quand le vent s'engouffre quelque part.
Entre deux îles.
C'est ça. Entre deux îles, ou entre une île et la côte, dans un détroit, ou même une vallée côtière bien encaissée.
C'est le même principe que quand on pince un tuyau d'arrosage.
L'eau accélère.
Pareil pour l'air. Quand le flux d'air est forcé de passer dans un passage plus étroit, un goulet, sa vitesse augmente pour que tout le volume passe.
Logique.
Et ce qui est important que les sources soulignent bien, c'est que cette accélération, elle ne se limite pas pile-poil au passage le plus étroit.
Ah non.
Non, ça commence un peu avant, en amont, et ça continue un peu après, en aval. Ces zones de Venturi, elles sont connues pour avoir des vents parfois beaucoup plus forts que tout autour.
Ça peut faire de sacrées surprises si on navigue sans connaître le coin. Bon, ces effets de pointe et de Venturi, c'est lié à un relief assez marqué. Mais même le long de côtes plus plates, sans grand relief apparent, les sources disent qu'il y a une différence entre le vent en mer et à terre. Comment ça s'explique ça?
Alors là, la clé, c'est le frottement. À terre, même sans falaise, le vent est freiné par la rugosité du sol, la végétation, les maisons.
Oui, tout ce qui dépasse.
Voilà. Ce frottement ralentit l'air près du sol. En mer, la surface de l'eau, elle est beaucoup plus lisse.
Mmh.
Le vent glisse mieux, il frotte beaucoup moins. Il est donc moins freiné. Et là, on retrouve notre ami Coriolis.
Ah, elle revient.
Et oui, comme le vent en mer est moins freiné par le sol, la force de Coriolis a plus d'effet sur lui. Elle le dévie plus vers la droite, on l'a dit. Donc, le vent en mer étant moins freiné et plus dévié par Coriolis, il sera souvent non seulement un peu plus fort qu'à une station côtière proche,
oui,
mais aussi orienté plus vers la droite.
Attendez, je récapitule pour être sûr. Moins de frottement en mer égale vent moins ralenti.
C'est ça.
Et plus dévié vers la droite par la rotation terrestre. Donc, si la météo annonce un vent de sud-ouest à la station côtière,
oui,
faut s'attendre à quoi au large? Plutôt ouest-sud-ouest, voire ouest, et peut-être plus fort.
C'est exactement l'idée générale. L'ampleur de la différence, ça dépend d'autres facteurs, la stabilité de l'air, etc. Mais la tendance, elle est là. C'est une nuance importante par rapport à lire juste le bulletin pour la côte.
C'est fou comme tous ces éléments s'imbriquent. On a parlé de phénomènes assez réguliers ou liés à la géographie et qui ne bougent pas. Mais la météo locale peut aussi être brutale, soudaine. Les sources parlent des grains. Qu'est-ce que c'est exactement un grain ?
Alors le grain, c'est une augmentation soudaine et très marquée de la vitesse du vent. Souvent, ça vient avec un changement de direction et de fortes pluies ou averses.
Brusque et bref, mais potentiellement violent.
Exactement. Et c'est presque toujours lié à un type de nuage très spécifique. Les nuages d'averses qui montent très haut, les cumulus congestus, les gros cumulus bien bourgeonnants.
Ok.
Ou, pour les grains les plus forts, les cumulonimbus, les fameux CB, les nuages d'orage.
Ah oui.
Ces nuages, c'est le signe d'une forte instabilité dans l'atmosphère, avec de puissants courants d'air verticaux à l'intérieur.
Et qu'est-ce qui provoque ces courants verticaux si puissants dans ces nuages-là?
C'est souvent l'arrivée d'air plus froid en altitude au-dessus d'un air plus chaud et humide près du sol. L'air froid, plus dense, il a tendance à vouloir dégringoler.
D'accord.
Tandis que l'air chaud et léger, lui, il monte violemment. Dans un cumulonimbus mature, on a des courants ascendants très forts, au milieu, mais aussi de puissants courants descendants, surtout liés aux précipitations.
Ah !
Et ce sont ces courants descendants qui, en arrivant au sol, s'étalent horizontalement et provoquent ces rafales brutales, ces changements de direction typiques du grain.
D'accord, ce sont ces douches d'air froid descendantes. Et les documents, ils disent où on a le plus de chances de les croiser, ces grains ?
Oui, ils sont fréquents dans certaines situations météo, typiquement juste avant ou plus souvent encore juste après le passage d'un front froid.
La traîne.
C'est ça. La zone qui suit le front froid qu'on appelle la traîne. C'est souvent un ciel très changeant, avec des éclaircies, puis de fortes averses ou ces fameux cumulus congestus ou cumulonimbus. C'est un contexte classique pour les grains. Et là, il faut être très très clair, l'avertissement des sources est capital.
Oui.
Naviguer ou même se trouver sous un cumulonimbus actif, c'est extrêmement dangereux. On parle de rafales qui peuvent dépasser 50, 60 nœuds, force 10, 11 Beaufort.
Ah oui, quand même.
Des changements de direction du vent totalement imprévisibles, des pluies diluviennes, de la grêle qui réduisent la visibilité à zéro, et bien sûr, le risque de foudre. C'est une zone à éviter à tout prix. Mieux vaut contourner largement.
Message bien reçu. Ça montre vraiment l'importance capitale d'avoir des infos météo fiables et de savoir les lire. Comment on fait pour avoir une bonne vision de ce qui nous attend ?
Les bulletins météo spécialisés, comme ceux des CROSS en France, sont mentionnés.
Oui, le bulletin météo officiel, ça reste la base. En France, Météo France fait des bulletins spécifiques pour la côte et le large. Ils sont diffusés plusieurs fois par jour par les CROSS, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage.
Et ils contiennent quoi, ces bulletins ?
Ils sont structurés. D'abord, ils signalent s'il y a un BMS, un bulletin météorologique spécial en cours ou prévu.
C'est l'alerte.
Oui, un BMS s'est émis dès qu'on attend du vent de force 7, Beaufort, vers 28-33 nœuds ou plus. C'est le premier niveau d'alerte sérieuse. Ensuite, le bulletin décrit la situation générale. Où sont les dépressions, les anticyclones? Ça donne le contexte.
Ok.
Puis viennent les prévisions détaillées par zone. Le vent, direction, force en Beaufort ou nœuds, l'état de la mer, la hauteur des vagues du vent local, la mer du vent.
Ah oui.
La houle, les vagues qui viennent de plus loin, le temps prévu, pluie, averse, orage, brouillard et la visibilité.
Très complet.
Et ça se termine souvent par les dernières observations des sémaphores ou des bouées météo. C'est un condensé d'infos précieuses.
C'est dense. Et pour faire ces bulletins, les prévisionnistes utilisent des outils informatiques complexes, les modèles numériques, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces modèles ?
Exactement. Ces modèles, ce sont des simulations de l'atmosphère faites par des supercalculateurs. Ils sont indispensables, mais ils ne sont pas parfaits.
Non, bien sûr.
Une règle d'or, soulignée dans nos sources, ne jamais se fier aveuglément à un seul modèle. Il en existe plusieurs, AROM, ARPEGE, GFS, le modèle européen ECMWF.
Il faut croiser les infos.
Toujours. C'est plus sûr de comparer les résultats de plusieurs modèles. S'ils disent tous à peu près la même chose, la confiance augmente. S'ils divergent beaucoup...
Prudence.
Exactement. Prudence maximale. Il faut alors envisager le scénario le plus pessimiste. Et un autre concept important avec les modèles, c'est la maille.
La maille.
Oui. C'est, pour simplifier, la résolution géographique de la simulation. La distance entre les points de calcul du modèle.
Ah, d'accord.
Plus la maille est fine... Petite distance, par exemple 1,3 km pour le modèle AROM de Météo France, plus le modèle est capable, en théorie, de simuler des phénomènes de petite échelle.
Comme nos brises thermiques ou les effets de site ?
Précisément. Les modèles à mailles plus larges, 10, 20 km ou plus, sont bons pour la tendance générale, mais ils peuvent rater ou lisser ces détails locaux qui sont parfois cruciaux.
Donc, si on s'intéresse justement à un effet de site très local, mieux vaut chercher un modèle à maille fine, tout en le comparant quand même avec d'autres. C'est noté.
Voilà.
Eh bien, cette exploration nous montre à quel point la météo locale, c'est un jeu complexe. On a vu cette danse subtile entre soleil et mer qui crée les brises.
Mmh.
Comment la forme d'une côte peut devenir un piège ou un accélérateur de vent. La menace soudaine cachée dans certains nuages.
Oui.
Et puis l'importance de croiser les infos des bulletins et des modèles pour essayer d'y voir plus clair. Comprendre ces mécanismes locaux, ça change vraiment la perspective, je trouve.
Absolument. Et ça ouvre une question pour aller un peu plus loin, une réflexion basée sur tout ça.
Ah oui ?
On a vu plusieurs effets locaux. Brise thermique, effet de pointe, canalisation, venturie. Mais dans la réalité, sur une côte un peu complexe, ces effets ne sont pas isolés.
Non, ils peuvent s'ajouter, j'imagine.
Ils peuvent coexister, interagir, se renforcer ou même s'annuler. Par exemple, une brise de mer, est-ce qu'elle peut être amplifiée si elle s'engouffre dans un détroit venturie ?
Bonne question.
Ou au contraire, est-ce qu'elle peut être complètement bloquée par l'effet de pointe d'un cap juste à côté ? Le vrai défi, pour une analyse fine, une planification sûre, c'est d'essayer d'anticiper comment tous ces phénomènes locaux vont jouer ensemble, à un endroit précis, à un moment donné.
Comment évaluer cette influence combinée ?
Voilà, ça demande une observation très attentive du terrain et une lecture encore plus critique des prévisions. Une vraie gymnastique intellectuelle, en fait.